Le stress multifactoriel, Kezako. Afin de nous déculpabiliser un peu, ça fait du bien de prendre du recul et en même temps de reprendre notre pouvoir personnel, nous allons envisager ici les facteurs qui déterminent nos réactions actuelles et qui peuvent amener des tensions dans nos vies et donc du stress. Le vilain. Nous ne venons pas de nulle part, et ce qui a composé notre passé nous compose aujourd'hui et nous déterminera demain. Sauf si nous devenons assez lucides pour en prendre la mesure et agir au mieux de nos intérêts, c'est-à-dire au mieux de notre santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Rien n'est figé. Et rien n'est inéluctable. En attendant, nous devons composer avec ce que nous sommes et faire nos choix les plus éclairés possibles, à l'aide de nos connaissances intellectuelles, intuitives ou sensitives. Si vous avez bien suivi, j'en vois deux là-bas qui dorment déjà. Vous et moi sommes les produits aboutis multifactoriel, issu d'un certain hasard, qui en a le nom à défaut de tout savoir, mais pas que. Vous n'avez rien compris? Moi-même, je n'aurais pas compris si je ne l'avais pas écrit, tellement la formule est obscure. Mais bon, j'ai aussi le droit de faire l'intelligent. On est là pour parler de choses sérieuses, non? Oui et non. Pour le dire plus simplement, disons qu'une situation donnée impacte différemment chacun de nous en fonction de différents critères qui nous composent et nous sont propres. Les facteurs génétiques, biologiques, environnementaux, sociaux et culturels. Tout d'abord, les facteurs d'ordre génétique. Coluche disait: les hommes naissent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. N'étant pas tous pareils, heureusement que vous n'êtes pas comme moi, n'ayant pas tous eu les mêmes critères génétiques à notre conception, qui vient avant la naissance, nous existons déjà dans le ventre de notre chère maman, je dis ça, je dis rien. Nous devons faire avec. Élémentaire, mon cher Watson. Nous sommes les produits de la rencontre entre nos parents, qui eux-mêmes sont les produits de la rencontre des leurs, qui eux-mêmes sont nés d'une rencontre entre un homme et une femme appelés aussi parents, etc., etc., etc. Ainsi, chacun hérite en partie des critères physiques et psychologiques de leurs ascendants. Notre héritage se transmet dans nos gènes, que ces derniers soient lisibles ou non scientifiquement. On parle pour ces derniers de gènes dits fantômes. Nous pourrons aussi avoir les jolis yeux noisettes de maman, la musculature imposante ou pas de papa, la douceur ou pas trop de maman, la patience de papa. Dans tous les cas, il en faut pour être parent, n'est-ce pas? Pas besoin de nous culpabiliser, ni de nous plaindre de cette situation. Nous sommes qui nous sommes, avec la génétique qui est la nôtre, et que nous n'avons pas choisi, ou alors parfaitement choisi. Tout dépend de comment nous concevons les événements, et cela grâce ou à cause des facteurs extérieurs dans lesquels nous avons évolué jusqu'à présent. Il y a aussi les facteurs d'ordre biologique. Il semblerait que ce critère puisse être pensé comme celui génétique, ce qu'il est en partie, bien sûr, mais il est modulable au présent en fonction de nos comportements. En gros, nous sommes ce que nous mangeons. Voilà un adage intéressant dont il faudrait se souvenir, car ce que nous mangeons impacte notre corps et notre esprit, et, par ricochet, influence et détermine nos tempéraments et actions. Vous ne me croyez pas? Vous êtes comme la fausse sceptique? Je comprends vos doutes, mais laissez-moi un instant le bénéfice du doute. Ce que nous mangeons concerne bien sûr notre alimentation physique, celle traitée par notre métabolisme digestif, dans un premier temps, et circulatoire et lymphatique par la suite. Nous appellerons cette nourriture la nourriture matérielle. Nous parlerons aussi de la nourriture non transformable moléculairement, celle qui viendra nous nourrir d'une autre manière, celle provenant de nos sens et de notre esprit. Nous appellerons cette nourriture la nourriture sensorielle. Enfin, nous envisagerons le cas des ondes électromagnétiques qui s'imposent à nous sans qu'on leur ait demandé leur avis. Cette nourriture sera appelée nourriture immatérielle. On y va? Bien. La première, la nourriture matérielle. Notre corps est une véritable usine chimique qui, à l'aide des organes, va transformer, produire et consommer de l'énergie. Évidemment, le but est d'en assurer la survie. Cette énergie provient des aliments que nous ingérons et à l'aide desquels les différents processus du corps, par leurs actions combinées, vont pouvoir en tirer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ce dernier. Il est scientifiquement reconnu que certains composants chimiques, organiques, favoriseraient une bonne santé. Nous pouvons citer les principaux qui sont les antioxydants, les vitamines, les oméga-3, les probiotiques, les polyphénols, les minéraux et les oligo-éléments. Et puis il y a les autres, les maudits, les pas gentils, les sournois. J'ai cité les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, c'est-à-dire le cadmium, le plomb, le mercure, l'arsenic, etc. Les formaldéhydes, les pesticides, mycotoxines, les additifs alimentaires, c'est-à-dire le glutamate, l'aspartame, les sulfites, le benzoate, les nitrites. À ce sujet, voir l'excellent livre de Madame Corinne Gouget, ce livre s'appelant « Les additifs alimentaires ». En clair, plus nous mangeons des produits non naturels ou transformés, surtout industriellement, et plus nous prenons le risque de consommer ce type de produits toxiques. Alors, dans le pire, choisissons-en le meilleur, les aliments de qualité biologique, même si de même, nous ne pouvons être totalement certifiés sur leur innocuité ou les fruits et légumes de notre jardin, serait une meilleure encore alternative si nous avons la chance d'en avoir un. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour notre santé. Tout ce qui est industriel est transformé et néfaste. Les produits contenus dans nos aliments peuvent être tellement néfastes que certains sont même considérés comme cancérigènes et d'autres ayant des incidences sur la fertilité, le cerveau, donc le système nerveux, si vous avez bien suivi, ou le système hormonal lui-même. Ceci explique cela. Il est bien évident que cela va impacter le confort du corps et nos humeurs. Une expérience relatée dans The British Journal of Psychiatry en 2002 a été menée par Bernard Gesch, G-E-S-H-C-H, chercheur en nutrition et en criminologie à l'université d'Oxford en Angleterre. Les résultats montrent de manière spectaculaire l'impact d'un changement d'alimentation sur le comportement agressif de jeunes prisonniers. D'autres études plus récentes ont confirmé cela. Je pense à celle entreprise en Australie et qui visait des classes d'enfants en école primaire. Il a été demandé aux enfants et aux parents, c'est quand même eux qui font les courses, de ne pas consommer soda et autres produits transformés contenant sucre à gogo et additifs alimentaires. Eh bien, les changements de comportement des enfants ont été notables sur les troubles de l'attention et de la mémoire, sur l'hyperactivité et l'agressivité. Et retour à l'attention, au calme, à la concentration, aux émotions plus stables, avec tous les autres effets positifs en découlant. D'ailleurs, voyez-vous-même, qu'est-ce qui se passe quand nous mangeons du sucre? Nous avons un moment un regain d'énergie, mais le pic de glycémie passé, notre métabolisme ralentit. C'est la chute de notre vitalité, la dépression. Et de plus en plus, notre corps, notre cerveau qui raffole du sucre, en devient dépendant et nous pouvons ressentir le malaise du manque. L'insatisfaction et le manque d'énergie vont bien évidemment avoir des conséquences sur la qualité de nos vies. Nous pouvons ressentir de l'irritabilité, de la fatigue, de la négativité, etc. J'imagine, plus pour se couvrir juridiquement que par unique souci de transparence, les lobbies de l'agroalimentaire l'écrivent noir sur blanc sur certains paquets de nourriture dite industrielle. C'est bien une preuve de l'impact de certaines substances sur l'organisme, non? Ou je rêve? Ce qui est valable pour nous, l'est aussi pour nos bambins. À méditer donc, quand ces derniers peuvent avoir des réactions qui semblent démesurées, mais qui ne sont que la juste conséquence d'une surstimulation, notamment provenant de l'alimentation. À cette alimentation physique s'ajoute une autre plus subtile, mais déterminante. Cette alimentation, c'est l'oxygène venant de notre respiration. Elle est absolument nécessaire à la bonne transformation du glucose venant de la digestion. La respiration va dégrader ce glucose par oxydation. Sans elle, rien de possible. C'est pourquoi il est primordial de veiller à bien s'oxygéner. Parlons maintenant de la nourriture sensorielle. Cette nourriture est celle issue de nos cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons, ressentons, nous compose. Si c'est un peu, c'est pas si grave. Si c'est beaucoup, par une surexposition, par des habitudes qui nous sont préjudiciables, alors ça devient plus embêtant. C'est pour cela qu'il faut être vigilant au quotidien quant aux choix que nous faisons. Notre quotidien a tendance à créer un environnement de permanente sollicitation. Rythme de vie effréné, biorythme non respecté, environnement de vie inadéquat. Lumière permanente et de mauvaise qualité, polluants chimiques dans les meubles, dans la peinture, dans des produits, etc., etc. Nous vivons des stimulations en tout genre. La télé, la publicité, le téléphone portable, les réseaux sociaux, un travail à assurer, ou encore l'école pour les petits, les tâches ménagères quotidiennes, l'obligation que nous nous infligeons, et j'en passe. Tout cela, ce monde dans lequel nous vivons, fait partie de nous, et nous ne le remettons que rarement en question, sauf urgence et prise de conscience. C'est sûrement à cause de cela que les changements ne se produisent pas. Nous acceptons notre condition par manque de recul sur les événements. Pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie pour agir, et cela jusqu'au terminus. Il est simple de remarquer qu'écouter par exemple du hard rock ou de la techno très rythmée va stimuler l'ensemble de notre organisme, le mettre en action, éveiller nos sens. Nous réagirons différemment en écoutant la fameuse sonate au clair de lune de Beethoven. Est-ce que je me trompe? Si vous n'en avez pas fait l'expérience, faites-la. Ressentir physiquement et dans ses émotions que le monde extérieur peut nous composer et impacter notre qualité de vie est primordial. Cela est primordial pour ensuite trouver la liberté d'être nous-mêmes et faire des choix heureux. Petite expérience. Pensez à du chocolat. Vous me direz si je veux. Eh bien, trop tard, vous y avez pensé. Maintenant que vous y êtes, portez une attention dans la sphère buccale et constatez ce qui s'y passe. Percevez-vous des sensations, des modifications, un changement quel qu'il soit? Des souvenirs viennent-ils à votre mémoire? Éprouvez-vous par exemple des sensations de plaisir? Nous sommes attachés à nos sens, et ces derniers nous créent des émotions qui viennent colorer nos vies. Mais ces émotions éprouvées vont aussi nous attacher à des perceptions passées, à des réactions, c'est-à-dire que l'on réagit à quelque chose. Comprenant cela, nous avons la possibilité d'avoir un impact sur nos conditionnements, sur nos habitudes et sur nos choix en général. Nous le faisons en mettant en lumière les processus qui nous gouvernent. Alors, au lieu d'une vie libre et légère, nous portons tout le barda de notre passé. Qu'il nous soit agréable ou non n'est pas le problème. Le poids est le même. Il est toujours de trop pour avancer. Et nous stimulons, surstimulons notre système nerveux, qui n'est jamais totalement en paix, car tout le temps sujet aux sollicitations extérieures ou intérieures à nous-mêmes. Le cerveau, qui fait partie du système nerveux central, je le rappelle, ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine ou invente. Il est important de s'en rappeler, car cela nous ouvre des possibilités pour vivre de la manière dont nous voulons. Bien. Parlons à présent de la nourriture immatérielle. Cette nourriture est composée de l'énergie tellurique, c'est-à-dire les ondes et courants provenant des forces de la Terre, des ondes électromagnétiques et de l'énergie dite vitale, que l'on appelle prana, ki ou chi. Dans le yoga, nous considérons que de nos corps émanent des ondes, des vibrations, une aura. C'est un champ électromagnétique subtil qui est mesurable même scientifiquement. Ce champ peut s'étendre jusqu'à 9 mètres autour de nous. Et par lien de relation avec notre environnement, nous pouvons concevoir que cette portée est même infinie, avec sûrement une influence plus limitée. Ainsi, dans le yoga, on parle de 5 enveloppes ou couches, que l'on appelle kosha. Ces couches s'étendent dans l'espace à partir du corps. Ces enveloppes sont de moins en moins grossières à mesure qu'elles s'éloignent du corps physique. Grâce à leur bonne compréhension, grâce à un alignement correct de ces enveloppes, l'individu retrouve son plein potentiel de vie. Et, à la mesure de sa pratique, de qui il est, au-delà de tout dogme ou de toute représentation. Quand nous pratiquons du yoga, nous agissons sur ces différentes enveloppes. Physique, c'est-à-dire la matière du corps. Énergétique, c'est-à-dire la force vitale qui nous compose. Mental, ce sont les désirs et les émotions. Intellectuel, c'est la sagesse qui nous compose. Et enfin, l'enveloppe dite de joie. C'est là qui se trouve être la plus proche de la conscience pure. Nous vivons dans un ensemble complexe et entremêlé de forces dont notre survie dépend. Un maillage d'ondes en flux continu qui nous traverse et nous compose, au moins le temps d'un instant, et modifie nos influx nerveux, qui eux-mêmes sont électriques. Saviez-vous que le cerveau est le principal générateur d'électricité du corps? Il crée lui-même et diffuse les impulsions électriques vers le reste du corps grâce aux neurotransmetteurs. C'est dire son importance majeure. Car sans ces impulsions électriques, sans ce flux permanent de l'influx nerveux, pas de mouvement et pas de circulation sanguine possible. Cette exposition aux champs électromagnétiques, c'est-à-dire le Wi-Fi, les ondes d'antenne relais, les ondes de téléphone portable, la 4G, la 5G, le Linky, toutes ces ondes, tout ce champ électromagnétique impacte, à n'en pas douter, chacun de nous en fonction de notre réceptivité ou sensibilité. Nous baignons dedans du matin au soir et du soir au matin. Cela ne s'arrête jamais. C'est de l'exposition en permanence. On parle même de pollution électromagnétique. Souvent, par impossibilité de déceler le vrai du faux, nous ne pouvons pas avec certitude déterminer une cause précise à nos maux, quels qu'ils soient. Il en va de la même manière avec cette nouvelle forme de pollution. Par habitude, par excès de confiance envers les instances sanitaires, par manque d'information, par choix ou par manque de choix, nous laissons cette situation perdurer. Ainsi, vous le savez, il y a des personnes dites électrosensibles qui supportent tellement peu ces courants qu'elles auront des symptômes allant de simples rougeurs ou troubles de l'attention, de la mémoire et de la concentration, à de la fatigue, des troubles d'ordre digestif, des maux de tête, des troubles visuels et auditifs, des palpitations cardiaques, des nausées, des étourdissements, à ce que l'on peut imaginer, bien que ce soit non prouvé scientifiquement. Tout juste existe-t-il des indices concordants, c'est-à-dire des maladies plus ou moins importantes, des troubles psychosociaux, de la dépression, et la liste est longue. Oui, c'est peut-être curieux dit comme ça, mais il est plus qu'envisageable que nous soyons impactés par toutes ces ondes inondant nos corps et nos têtes. J'en ai moi-même fait la manifeste expérience après le retour de l'un de mes voyages en Inde. Je n'utilisais pas là-bas de téléphone portable et faisais essentiellement avec Internet dans les coffee shops pour donner et prendre des nouvelles de mes proches. À mon retour, j'ai dû reprendre un abonnement téléphonique sur mon téléphone portable. C'est quand même plus pratique que les téléphones filaires, surtout dans la rue. J'appelle ou réponds un appel. Tout d'un coup, j'ai ressenti comme une aspiration au niveau du milieu du front. Et mon énergie s'en est vue rapidement diminuer. C'est comme si elle avait été en quelque sorte aspirée. Idem, peut-être en avez-vous fait aussi l'expérience, quand vous rentrez dans des commerces, des supermarchés. Ne ressentez-vous pas une différence d'état d'être? Si je vous demande ça, c'est pas pour rien. Vous pensez bien. J'en ai fait, et je fais encore cette expérience quand je m'y trouve, et quand je reste attentif à mes sensations. Alors, la prochaine fois que vous allez faire vos courses, essayez s'il vous plaît de rester attentif à cela. Avec tout ça, autant respecter le principe de précaution, qui veut que, quand nous avons le choix, dans le doute, on s'abstient. Ok, on ne va pas mettre de casque en aluminium sur nos têtes, quoique chacun fait comme bon lui semble. Mais on peut essayer de limiter l'impact de ces ondes par différents moyens. Essayons un maximum d'utiliser les kits oreillettes pour téléphone portable, de ne pas dormir avec ces derniers, même en mode avion. Essayons de limiter le Wi-Fi, ou s'il est encore temps pour certains, de refuser le compteur Linky, de relier toutes nos prises électriques à la terre, et non pas que celle de la salle de bain ou dans la cuisine. Et puis, comme action préventive et positive, nous pouvons rechercher le contact avec la nature, nous mettre pieds nus sur le sol, pas sur l'asphalte, sur la terre, afin qu'à travers nos pieds, nous retrouvions le contact avec la terre même. L'idée est la même que celle précitée, nous laissant passer les courants électriques à travers nos corps, jusque dans la terre. Bref, nos pieds redeviennent nos prises de terre. Et là, je vous entends. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Oui, nous n'y pensons pas naturellement, déconnectés que nous sommes des réalités de ce monde. Envisageons maintenant les facteurs sociaux, environnementaux et culturels. On ne choisit pas non plus ses parents, sa famille, son environnement social et culturel quand nous venons au monde. Et même si c'était le cas, peut-on seulement agir postérieurement et rétroactivement sur le passé? Et même si nous le pouvions, est-ce que cela serait souhaitable? Nous sommes les produits de notre génétique, de nos expériences en tout genre, de nos conditionnements, et notre réalité est celle que notre esprit conçoit. En soi, tout est pour le mieux, car il ne peut exister d'autre réalité de vous-même que celle que vous incarnez actuellement. Par contre, il peut être possible que nos conceptions linéaires du temps ne soient pas la façon adéquate de le considérer. Tout cela relève de théories quantiques et de la métaphysique. Je vous laisse faire vos recherches et découvertes, car cela est assez complexe et je ne me sens pas les compétences pour en faire une tartine. En plus, n'est-on pas le mieux servi que par soi-même? Donc, la réalité qui est la nôtre est la conséquence d'un certain hasard, on pourra dire destiné, en partie déterminé par l'environnement qui a été l'eau de notre bain jusqu'à présent. Nos choix, nos goûts et dégoûts, nos jugements, nos valeurs morales, peurs, tensions, capacité à gérer le stress, confiance ou manque de confiance en soi, notre façon d'envisager le monde en général et nous-mêmes en particulier, tout ce que vous pouvez imaginer encore est le fruit d'une construction depuis notre naissance. Nous nous pensons libres, mais cela c'est sans envisager les multiples facteurs qui, petit à petit, nous ont formatés, conditionnés, moulés. Et ce qui ne nous serait pas acceptable aujourd'hui l'est devenu par l'habitude, par manque de recul sur les événements qui nous conviennent, si bien et qui peuvent nous gâcher la vie. Ce qui nous stresse, mis à part les situations d'urgence, ce sont les événements passés que nous avons considérés comme ne nous étant pas favorables, que nous avons subis et auxquels nous n'avons pas su faire face. Faute d'en faire une force, nous en avons fait une faiblesse. Et cette faiblesse nous hante encore aujourd'hui. Cela se traduit par un sentiment d'incapacité à gérer tel ou tel domaine de notre vie, ce qui nous occasionne stress et dévalorisation personnelle. Maintenant que nous avons débusqué les facteurs susceptibles de nous créer inutilement et négativement des tensions, du stress et de l'anxiété, en surstimulant notre système nerveux, il nous est possible de faire des choix éclairés à la lumière de cette conscience nouvelle et d'agir au mieux de nos intérêts. Et vous, vous êtes plutôt apaisé habituellement ou du genre nerveux, faut pas me chercher ?